Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 1, chapitre 10. Érasme. Érasme à Paris, sa réputation, sa profession, ses travaux, ses défauts, une réforme sans secousse était-elle possible? Sa timidité, son indécision. Rechelin n'avait pas encore 12 ans quand naquit l'un des plus grands génies de ce siècle. Un homme plein de vivacité et d'esprit, appelé Gérard, natif de Gouda dans les Pays-Bas, aimait la fille d'un médecin nommé Marguerite. Les principes du christianisme ne dirigeaient point sa vie, ou tout au moins la passion les fit taire. Ses parents et 9 frères voulaient le contraindre à embrasser l'état monastique. Il s'enfuit, laissant celle qu'il aimait sur le point de devenir mère, et se rendit à Rome. La coupable Marguerite mit au monde un fils. Gérard n'en apprit rien, et quelque temps après, il reçut de ses parents la nouvelle que celle qu'il avait aimée n'était plus. Saisi de douleur, il se fit prêtre et se consacra entièrement au service de Dieu. Il revint en Hollande. Elle vivait encore. Marguerite ne voulut pas se marier à un autre. Gérard resta fidèle à ses vœux sacerdotaux. Leur affection se concentra sur leur jeune fils. La mère en avait pris le soin le plus tendre. Le père, après son retour, l'envoya à l'école, quoiqu'il n'eût encore que 4 ans. Il n'en avait pas 13 lorsque son maître, Synthémius de Deventer, l'embrassant un jour plein de joie, s'écria « Cet enfant atteindra les plus hautes sommités de la science !» C'était Érasme de Rotterdam. Vers ce temps, sa mère mourut, et peu après, son père, accablé de douleur, la suivit dans la tombe. Le jeune Érasme, demeuré seul au monde, témoigna une vive aversion pour la vie monacale que ses tuteurs voulaient le contraindre à embrasser, mais avec laquelle, dès sa naissance, il fut, pourrait-on dire, toujours en opposition. À la fin, on le persuada d'entrer dans un couvent de chanoines réguliers, et à peine l'eut-il fait qu'il se sentit comme accablé sous le poids de ses vœux. Il retrouva un peu de liberté et nous le voyons bientôt à la cour de l'archevêque de Cambrai et plus tard à l'université de Paris. Il y poursuivit ses études dans une grande misère, mais avec l'application la plus infatigable. Et dès qu'il pouvait se procurer quelque argent, il l'employait à acheter d'abord des auteurs grecs et ensuite des habits. Souvent, le pauvre Hollandais recourait en vain à la générosité de ses protecteurs. Aussi, plus tard, sa plus grande joie fut-elle de soutenir des jeunes gens studieux mais pauvres. Appliqué sans relâche à la recherche de la vérité et de la science, il n'assistait qu'à contre-cœur aux disputes scolastiques et il reculait devant l'étude de la théologie, craignant d'y découvrir quelques erreurs et d'être bientôt dénoncé comme hérétique. Ce fut alors qu'Érasme commença à se sentir lui-même. Il sut trouver dans l'étude des anciens une justesse et une élégance de style qui le placèrent bien au-dessus de tout ce que Paris avait de plus illustre. Il se mit à enseigner et gagna ainsi des amis puissants. Il publia quelques écrits et s'entoura ainsi d'admiration et d'applaudissements. Il comprit ce que le public aimait et, secouant les derniers liens de la scolastique et du cloître, il se jeta tout entier dans la littérature, répandant dans tous ses écrits ses observations pleines de finesse, cet esprit net, vif, éclairé, qui à la fois enseigne et amuse. L'habitude du travail, qu'il contracta à cette époque, lui demeura toute la vie. Même dans ses voyages, qu'il faisait ordinairement à cheval, il n'était point oisif. Il composait en route, en chevauchant à travers les campagnes, et arrivé à l'hôtellerie, il couchait par écrit ses pensées. C'est ainsi qu'il fit son fameux « éloge de la folie » dans un voyage d'Italie en Angleterre. Érasme s'acquit de bonheur une grande réputation parmi les savants. Mais les moines, irrités, lui vouèrent une haine violente. Recherché des princes, il était inépuisable lorsqu'il s'agissait de trouver des excuses pour échapper à leurs invitations. Il aimait mieux gagner sa vie avec l'imprimeur Frobenius, en corrigeant des livres, que de se trouver entouré de luxe et de faveurs aux cours magnifiques de Charles Quint, de Henri VIII, de François Ier, ou que de ceindre sa tête du chapeau de cardinal qui lui fut offert. Depuis 1509, il enseigna à Oxford. Il vint en 1516 à Bâle. Il s'y fixa en 1521. Quelle a été son influence sur la Réformation? Elle a été trop exaltée d'un côté et trop dépréciée de l'autre. Érasme n'a jamais été et n'eût jamais pu être un réformateur, mais il a préparé les voies à d'autres. Non seulement il répandit dans son siècle l'amour de la science et un esprit de recherche et d'examen qui emmena d'autres bien plus loin qu'il n'alla lui-même, mais encore il sut, protégé par de grands prélats et par de puissants princes, dévoiler et combattre les vices de l'Église par les plus piquantes satires. Érasme attaqua en effet de deux manières les moines et les abus. Il veut d'abord de sa part une attaque populaire. Ce petit homme blond, dont les yeux bleus à demi fermés observaient finement tout ce qui se présentait à lui, sur la bouche duquel était un sourire un peu moqueur, dont le maintien était timide et embarrassé, et qu'un souffle eût pu, semblait-il, renverser, versait partout une élégante et mordante amertume contre la théologie et la dévotion de son siècle. Son caractère naturel et les événements de sa vie l'avaient rendu sa disposition habituelle. Dans les écrits même, où l'on n'eût rien attendu de semblable, son humeur sarcastique paraissait tout à coup, et il immolait à coups d'épingle ses scolastiques et ses moines ignorants auxquels il avait déclaré la guerre. Il y a de grands traits de ressemblance entre Voltaire et Érasme. Des auteurs qui l'avaient précédé avaient déjà rendu populaire l'idée de cet élément de folie qui s'est glissé dans toutes les pensées et tous les actes de la vie humaine. Érasme s'empara de cette idée. Il introduisit la folie en personne, Moria, fille de Plutus, née dans les îles Fortunées, nourrie d'ivresse et d'impertinence et reine d'un puissant empire. Elle en fait la description, elle peint successivement tous les états du monde qui lui appartiennent, mais elle s'arrête surtout aux gens d'église qui ne veulent point reconnaître ses bienfaits, quoiqu'elle les comble de ses faveurs. Elle couvre de ses lazies et de ses moqueries le labyrinthe de dialectique où les théologiens se sont perdus et ses syllogismes bizarres dont ils prétendent soutenir l'Église. Elle dévoile les désordres, l'ignorance, la saleté, le ridicule des moines. « Ils sont tous des nôtres, » dit-elle, « ces gens qui n'ont pas de plus grande joie que de raconter des miracles ou d'entendre des mensonges prodigieux et qui s'en servent pour charmer les ennuis des autres et pour remplir leur propre bourse. Je parle surtout des prêtres et des prédicateurs. Près d'eux se trouvent ceux qui se sont mis dans l'esprit cette folle et pourtant si douce persuasion que s'ils jettent un regard sur un morceau de bois ou sur un tableau, représentant Polyphème ou Christophore, ils ne mourront pas ce jour-là. Hélas, que de folie, continue Moria, dont le rouge me monte presque à moi-même au front. Ne voit-on pas chaque pays réclamer son saint particulier? Chaque misère a son saint et chaque saint sa chandelle. Ce saint vous soulage dans les maux de dents. Celui-ci vous assiste au mal d'enfant. Un autre vous restitue ce qu'un voleur vous a pris. Un autre vous sauve en cas de naufrage. Un cinquième protège vos troupeaux. Il en est qui sont puissants dans beaucoup de choses à la fois, et principalement la Vierge, Mère de Dieu, à qui le vulgaire attribue presque davantage qu'au Fils. Au milieu de toutes ces folies, si quelque odieux sage se lève, et chantant la contrepartie, dit ce qui est la vérité, vous ne périrez pas misérablement si vous vivez chrétiennement. Vous rachèterez vos péchés si, à l'argent que vous donnez, vous ajoutez la haine du mal, des larmes, des veilles, des prières, des jeûnes et un changement complet dans votre manière de vivre. Ce saint vous sera favorable si vous imitez sa vie. Si quelques sages, dis-je, leur crient charitablement ces choses aux oreilles, oh, de quelle félicité ne privent-ils pas leurs âmes et dans quel trouble, dans quelle désolation ne les plongent-ils pas? L'esprit de l'homme est ainsi fait que l'imposture a beaucoup plus de prise sur lui que la vérité. S'il y a quelque saint plus fabuleux qu'un autre, un saint Georges, un saint Christophore ou une sainte Barbara, vous verrez qu'on l'adorera avec une dévotion beaucoup plus grande que saint Pierre, que saint Paul ou que Christ lui-même. Au reste, la folie n'en reste pas là. Elle attaque les évêques eux-mêmes, qui courent plus après l'or qu'après les âmes, et qui croient avoir fait assez quand ils se posent avec complaisance dans une pompe théâtrale comme de saint Père auquel l'adoration appartient, et bénissent et anathématisent. La fille des îles Fortunées s'enhardit jusqu'à s'attaquer à la cour de Rome et au pape lui-même, qui, ne prenant pour lui que les divertissements, laisse les apôtres Pierre et Paul s'acquitter de son ministère. Y a-t-il, dit-elle, de plus redoutables ennemis de l'Église que ces pontifes impies qui permettent par leur silence que l'on abolisse Jésus-Christ, qui le lient par leurs lois mercenaires, qui le falsifient par leurs interprétations forcées et qui l'étranglent par leur vie empestée. Holbein ajouta à l'éloge de la folie les gravures les plus bizarres, où figurait le pape avec sa triple couronne. Jamais ouvrage peut-être ne répondit si bien aux besoins d'une époque. On ne peut décrire l'impression que ce petit livre produisit dans la chrétienté. Il en parut 27 éditions pendant la vie d'Érasme. Il fut traduit dans toutes les langues et il servit plus que tout autre à affermir l'esprit du siècle dans sa tendance antisacerdotale. Mais à l'attaque populaire du sarcasme, Érasme joignit l'attaque de la science et de l'érudition. L'étude des lettres grecques et latines avait ouvert de nouvelles perspectives au génie moderne qui commençait à se réveiller en Europe. Érasme embrassa avec feu l'idée des Italiens que c'était à l'école des anciens qu'il fallait étudier les sciences et que, renonçant aux livres insuffisants et bizarres dont il s'était servi jusqu'alors, il fallait aller à Strabon pour la géographie, à Hippocrate pour la médecine, à Platon pour la philosophie, à Ovide pour la mythologie, à Pline pour l'histoire naturelle. Mais il fit un pas de plus, ce pas était celui d'un géant, et devait amener la découverte d'un nouveau monde, plus important à l'humanité que celui que Colomb venait d'ajouter à l'ancien. Érasme, poursuivant le même principe, demanda que l'on n'étudiât plus la théologie dans Scott et Thomas d'Aquin, mais qu'on allât pour l'apprendre au Père de l'Église et avant tout au Nouveau Testament. Il montra qu'il ne fallait même pas s'en tenir à la Vulgate qui fourmillait de fautes, et il rendit à la vérité un service immense en publiant son édition critique du texte grec du Nouveau Testament, texte aussi peu connu de l'Occident que s'il n'eût pas existé. Cette édition parut en 1516 à Bâle, un an avant la Réformation. Érasme fit ainsi pour le Nouveau Testament ce que Reichelin avait fait pour l'Ancien. Les théologiens purent dès lors lire la parole de Dieu dans les langues originales et plus tard reconnaître la pureté de la doctrine des réformateurs. « Je veux, dit Érasme en publiant son Nouveau Testament, ramener à son origine ce froid disputeur de mots que l'on appelle la théologie. Plût à Dieu que cet ouvrage porta pour le christianisme autant de fruits qu'il m'a coûté de peine et d'application. » Ce vœu fut accompli. En vain les moines s'écrièrent « Il veut corriger le Saint-Esprit !» Le Nouveau Testament d'Érasme fit jaillir une vive lumière. Ses paraphrases sur les épîtres et sur les évangiles de saint Matthieu et de saint Jean, ses éditions de Cyprien et de Jérôme, ses traductions d'Origène, d'Athanase, de Chrysostome, sa vraie théologie, son Ecclésiaste, ses commentaires sur plusieurs psaumes contribuèrent puissamment à répandre le goût de la parole de Dieu et de la pure théologie. L'effet de ses travaux surpassa ses intentions mêmes. Reuchlin et Érasme rendirent la Bible aux savants, Luther la rendit au peuple. Cependant, Érasme fit plus encore. En ramenant à la Bible, il rappela ce qu'il y avait dans la Bible. « Le but le plus élevé du renouvellement des études philosophiques, dit-il, sera d'apprendre à connaître le simple et pur christianisme dans la Bible. » Belle parole, et plût à Dieu que les organes de la philosophie de nos jours comprissent aussi bien leur mission. « Je suis fermement résolu, disait-il encore, à mourir sur l'étude de l'Écriture. En elle est ma joie et ma paix. » Le sommaire de toute la philosophie chrétienne se réduit à ceci, dit-il ailleurs, « placer toute notre espérance en Dieu, qui, sans notre mérite, par grâce, nous donne tout par Jésus-Christ, savoir que nous sommes rachetés par la mort de son Fils, mourir aux convoitises mondaines et marcher d'une manière conforme à sa doctrine et à son exemple, non seulement sans nuire à personne, mais encore en faisant du bien à tous, supporter patiemment l'épreuve dans l'espérance de la rémunération future, enfin, ne nous attribuer aucun honneur à cause de nos vertus, mais rendre grâce à Dieu pour toutes nos forces et pour toutes nos œuvres. Voilà ce dont il faut pénétrer l'homme jusqu'à ce que cela soit devenu pour lui une seconde nature. » Puis, s'élevant contre cette masse d'ordonnances de l'Église sur les habits, les jeûnes, les fêtes, les vœux, le mariage, la confession, qui oppriment le peuple et enrichissent les prêtres, Érasme s'écrie « Dans les temples, à peine pense-t-on à interpréter l'Évangile. La bonne partie des sermons doit être conçue au gré des commissaires d'indulgence. La très sainte doctrine de Christ doit être supprimée ou interprétée à contresens et à leur profit. Il n'y a plus aucune espérance de guérison à moins que Christ lui-même ne convertisse les cœurs des princes et des pontifes et ne les excite à rechercher la piété véritable. Les ouvrages d'Érasme se succédaient. Il travaillait sans cesse, et ses écrits étaient lus tels que sa plume venait de les tracer. Ce mouvement, cette vie native, cette intelligence riche, fine, spirituelle, hardie, qui, sans arrière-pensée, se versait à grands flots sur ses contemporains, entraînait et ravissait l'immense public qui dévorait les ouvrages du philosophe de Rotterdam. Il devint bientôt l'homme le plus influent de la chrétienté, et de toutes parts on vit pleuvoir sur sa tête et les pensions et les couronnes. Si nous portons nos regards sur la grande révolution qui, plus tard, renouvela l'Église, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'Érasme fut pour plusieurs comme un pont de passage. Bien des hommes qui auraient été effrayés par les vérités évangéliques présentées dans toute leur force et leur pureté se laissèrent attirer par lui et devinrent plus tard les fauteurs les plus zélés de la Réformation. Mais par cela même qu'il était bon pour préparer, il ne l'eût pas été pour accomplir. Érasme sait très bien signaler les erreurs, dit Luther, mais il ne sait pas enseigner la vérité. L'évangile de Christ ne fut pas le foyer où s'alluma et s'entretint sa vie, le centre autour duquel rayonna son activité. Il était avant tout savant et seulement ensuite chrétien. La vanité exerçait sur lui trop de pouvoir pour qu'il eût sur son siècle une influence décisive. Il calculait avec anxiété les suites que chacune de ses démarches pourrait avoir pour sa réputation. Il n'y avait rien dont il aimât autant à parler que de lui-même et de sa gloire. Le pape, écrivait-il à un ami intime, avec une vanité puérile, à l'époque où il se déclare l'adversaire de Luther, « Le pape m'a envoyé un diplôme plein de bienveillance et de témoignages d'honneur. Son secrétaire me jure que c'est quelque chose d'inouï et que le pape l'a dicté lui-même mot à mot. » Érasme et Luther sont les représentants de deux grandes idées quant à une réforme, de deux grands partis dans leur siècle et dans tous les siècles. L'un se compose des hommes d'une prudence craintive, l'autre des hommes de résolution et de courage. Ces deux partis existaient à cette époque et ils se personnifièrent dans ces illustres chefs. Les hommes de prudence croyaient que la culture des sciences théologiques amènerait peu à peu et sans déchirement une réformation de l'Église. Les hommes d'action pensaient que des idées plus justes répandues parmi les savants ne feraient point cesser les superstitions du peuple et que corriger tel ou tel abus était peu de chose si toute la vie de l'Église n'était pas renouvelée. « Une paix désavantageuse, disait Érasme, vaut mieux encore que la plus juste des guerres. » Il pensait, et que d'Érasme n'ont pas vécu dès lors et ne vivent pas de nos jours, il pensait qu'une réformation qui ébranlerait l'Église courait risque de la renverser. Il voyait avec effroi les passions excitées, le mal se mêlant partout au peu de bien que l'on pourrait faire, les institutions existantes détruites sans que d'autres puissent être mis à leur place et le vaisseau de l'Église faisant haut de toutes parts, englouti au milieu de la tempête. « Ceux qui font entrer la mer dans de nouvelles lagunes, disait-il, font souvent une œuvre qui les trompe, car l'élément redoutable, une fois introduit, ne se porte pas là où l'on voulait l'avoir, mais il se jette où il lui plaît, et cause de grandes dévastations. Quoi qu'il en soit, disait-il encore, que les troubles soient partout évités. Il vaut mieux supporter des princes impies que d'empirer le mal par des innovations. » Mais les courageux d'entre ses contemporains avaient de quoi lui répondre. L'histoire avait suffisamment démontré qu'une exposition franche de la vérité et un combat décidé contre le mensonge pouvaient seuls assurer la victoire. Si l'on eût usé de ménagement, les artifices de la politique, les ruses de la cour papale auraient éteint la lumière dans ses premières lueurs. N'avait-on pas depuis des siècles employé tous les moyens de douceur? N'avait-on pas vu concile sur concile, convoqué dans le dessein de réformer l'Église? Tout avait été inutile. Pourquoi prétendre faire de nouveau une expérience si souvent déçue? Sans doute, une réforme fondamentale ne pouvait s'opérer sans déchirement. Mais quand a-t-il paru quelque chose de grand et de bon parmi les hommes qui n'ait causé quelque agitation? Cette crainte de voir le mal se mêler au bien, si elle était légitime, n'arrêterait-elle pas précisément les entreprises les plus nobles et les plus saintes? Il ne faut pas craindre le mal qui peut surgir d'une grande agitation, mais il faut se fortifier pour le combattre et le détruire. N'y a-t-il pas d'ailleurs une différence totale entre la commotion qu'impriment les passions humaines et celle qui émane de l'Esprit de Dieu? L'une ébranle la société, mais l'autre la raffermit. Quelle erreur que de s'imaginer, comme Érasme, que dans l'état où se trouvait alors la chrétienté, avec ce mélange d'éléments contraires, de vérité et de mensonge, de mort et de vie, on pouvait encore prévenir de violentes secousses. Chercher à fermer le cratère du Vésuve, quand les éléments irrités s'agitent déjà dans son sein. Le Moyen-Âge avait vu plus d'une commotion violente, avec une atmosphère moins grosse d'orage que ne l'était celle du temps de la Réformation. Ce n'est pas à arrêter et à comprimer qu'il faut penser alors, mais à diriger et à conduire. Si la Réformation n'eût pas éclaté, qui peut dire l'épouvantable ruine qui l'eût remplacée? La société, en proie à 1000 éléments de destruction, sans éléments régénérateurs et conservateurs, eût été effroyablement bouleversée. Certes, c'eût bien été une réforme à la manière d'Érasme, et telle que la rêvent encore de nos jours beaucoup d'hommes modérés mais timides qui eût renversé la société chrétienne. Le peuple, dépourvu de cette lumière et de cette piété que la Réformation fit descendre jusque dans les rangs les plus obscurs, abandonné à ses passions violentes et à un esprit inquiet de révolte, se fût déchaîné comme l'animal furieux que des provocations excitent et dont aucun frein ne retient plus la colère. La Réformation ne fut autre chose qu'une intervention de l'Esprit de Dieu parmi les hommes, un règlement que Dieu mit en la terre. Elle put, il est vrai, remuer les éléments de fermentation qui sont cachés dans le cœur humain. Mais Dieu vainquit. La doctrine évangélique, la vérité de Dieu, pénétrant dans la masse des peuples, détruisit ce qui devait périr, mais affermit partout ce qui devait être maintenu. La Réformation a édifié dans le monde. La prévention seule a pu dire qu'elle avait abattu. Le soc de la charrue, a-t-on dit avec raison, en parlant de l'œuvre de la Réforme, pourrait aussi penser qu'il nuit à la terre, parce qu'il la déchire, il ne fait que la féconder. Le grand principe d'Érasme était « éclaire, et les ténèbres disparaîtront d'elles-mêmes ». Ce principe est bon, et Luther le suivit. Mais quand les ennemis de la lumière s'efforcent de l'éteindre, ou d'enlever le flambeau de la main qui le porte, faudra-t-il pour l'amour de la paix les laisser faire? Faudra-t-il ne pas résister aux méchants? Le courage manqua à Érasme. Or, il en faut pour opérer une réformation, aussi bien que pour prendre une ville. Il y avait beaucoup de timidité dans son caractère. Dès sa jeunesse, le nom seul de la mort le faisait trembler. Il prenait pour sa santé des soins inouïs. Nul sacrifice ne lui eût coûté pour s'enfuir loin d'un lieu où régnait une maladie contagieuse. Le désir de jouir des commodités de la vie surpassait sa vanité même, et ce fut cette raison qui lui fit rejeter plus d'une offre brillante. Aussi ne prétendait-il pas au rôle de réformateur. Si les mœurs corrompues de la cour de Rome demandent quelques grands et prompts remèdes, disait-il, ce n'est ni mon affaire ni celle de ceux qui me ressemblent. Il n'avait point cette force de la foi qui animait Luther. Tandis que celui-ci était toujours prêt à laisser sa vie pour la vérité, Érasme disait ingénument « Que d'autres prétendent au martyr, pour moi, je ne me crois pas digne de cet honneur. Je crains que, s'il m'arrivait quelque tumulte, je n'imitasse Pierre dans sa chute. » Par ses écrits, par ses paroles, Érasme, plus que tout autre, avait préparé la Réformation. Et puis, quand il vit arriver la tempête qu'il avait lui-même suscitée, il trembla. Il eut tout donné pour amener le calme d'autrefois, même avec ses pesantes vapeurs. Mais il n'était plus temps, la digue était rompue. On ne pouvait arrêter le fleuve qui devait à la fois nettoyer et fertiliser le monde. Érasme fut puissant comme instrument de Dieu. Quand il cessa de l'être, il ne fut plus rien. À la fin, Érasme ne savait plus pour quel parti se déclarer. Aucun ne lui plaisait, et il les craignait tous. « Il est dangereux de parler, disait-il, et il est dangereux de se taire. Dans tous les grands mouvements religieux, il y a de ces caractères indécis, respectables à quelques égards, mais qui nuisent à la vérité et qui, ne voulant déplaire à personne, déplaisent à tout le monde. » Que deviendrait la vérité si Dieu ne suscitait pas pour elle des champions plus courageux? Voici le conseil qu'Érasme donna à Viglius Zwickem, depuis président de la Cour supérieure à Bruxelles, sur la manière dont il devait se comporter vis-à-vis des sectaires, car c'est ainsi qu'il appelait déjà les réformateurs. « Mon amitié pour toi me fait désirer que tu te tiennes bien loin de la contagion des sectes et que tu ne leur fournisses aucune occasion de dire que Zwickem est des leurs. Si tu approuves leur doctrine, au moins dissimule et surtout ne dispute point avec eux. Un jurisconsulte doit financer avec ces gens, comme certains mourants avec le diable. Le diable lui demanda, Que crois-tu ? Le mourant, craignant, s'il confessait sa foi, d'être surpris dans quelque hérésie, répondit « Ce que croit l'Église ». Le premier insista « Que croit l'Église ?» L'autre répondit « Ce que je crois ». Le diable a encore une fois « Et que crois-tu donc ?» Et le mourant de nouveau « Ce que croit l'Église ?» Aussi, le duc Georges de Saxe, ennemi mortel de Luther, ayant reçu d'Erasme une réponse équivoque à une question qu'il lui avait adressée, disait « Cher Erasme, lave-moi la fourrure et ne la mouille pas !» Second Curiot, dans un de ses ouvrages, décrit deux cieux, le ciel papiste et le ciel chrétien. Il ne trouve Erasme ni dans l'un ni dans l'autre, mais il le découvre se mouvant sans cesse entre eux dans des cercles sans fin. Tel fut Erasme. Il lui manqua cet affranchissement intérieur qui rend véritablement libre. Qu'il eût été différent s'il s'était abandonné lui-même pour se donner à la vérité. Mais après avoir cherché à opérer quelques réformes avec l'approbation des chefs de l'Église, après avoir pour Rome abandonné la réformation, quand il vit que ces deux choses ne pouvaient marcher ensemble, il se perdit auprès de tous. D'un côté, ses palinodies purent comprimer la colère des partisans fanatiques de la papauté. Il sentait le mal qu'il leur avait fait et ne lui pardonnait pas. Des moines impétueux l'accablaient d'injures du haut des chairs. Ils l'appelaient un second Lucien, un renard qui avait dévasté la vigne du Seigneur. Un docteur de Constance avait suspendu le portrait d'Erasme dans son cabinet afin de pouvoir à chaque instant lui cracher au visage. Mais de l'autre côté, Erasme, abandonnant l'étendard de l'Évangile, se vit privé de l'affection et de l'estime des hommes les plus généreux du temps où il vécut et dut renoncer sans doute à ces consolations célestes que Dieu répand dans les cœurs de ceux qui se comportent en bons soldats de Jésus-Christ. C'est au moins ce que semblent indiquer ces larmes amères, ces veilles pénibles, ce sommeil troublé, ces aliments qui lui deviennent insipides, ce dégoût pour l'étude des muses, autrefois sa seule consolation, ce front chagrin, ce visage pâle, ces regards tristes et abattus, cette haine d'une vie qu'il appelle cruelle et ses soupirs après la mort dont il parle à ses amis. Pauvre Erasme. Les ennemis d'Erasme allèrent, ce nous semble, un peu au-delà de la vérité quand ils s'écrièrent au moment où Luther parut « Erasme a pondu l'œuf et Luther l'a couvé ».